Mais voilà, Daniel nous vient d'Angleterre, il est arrivé hier. Il est à la recherche d'une église, mais on ne va pas brûler les étapes non plus. Il est prévu qu'on le rencontre avec le conseil un peu élargi. Après, on va manger chez Ernestus, avec Edouard, avec Salvatore, avec Daniel et le conseil. On va voir un petit peu comment, quelles affinités on peut avoir ensemble et de ça. Mais c'était l'occasion de pouvoir l'écouter ce matin. Et je vais prier pour lui.
Merci.
Oui, Seigneur, merci de ce privilège qu'on a. Daniel qui vient nous apporter la parole, Seigneur, dans ton église ici à Glace. Seigneur, veuille l'utiliser pour apporter ton message, Seigneur, et que on puisse avoir des oreilles et des cœurs attentifs, Seigneur, pour ta gloire. Amen.
Amen. Je ne sais pas si parfois vous avez envie de crier de joie quand un enfant est né, quand un enfant gagne sa course à pied, quand son équipe préférée marque un but, gagne un match, quand ton ami préside bien le culte, quand sa femme qui nous héberge et qui cuisine et qui travaille sans cesse, oui, merci. Et j'ai envie de faire mais plus que ça, on a de quoi remercier le Seigneur et vouloir même crier de joie en sa présence. Il y a une bonne dizaine d'années, j'étais dans une église, plutôt de tendance, pentecôtiste. Et il y a une dame dans l'assemblée qui, à un moment donné, elle fait « oui, comme ça. Et j'avoue que j'étais offusqué. J'étais offusqué par sa louange. Depuis lors, je m'en suis repenti. Et j'aimerais bien vous inviter à peut-être taper dans les mains ou à dire « Merci Seigneur !» à haute voix, quelque chose comme ça. Parce qu'on a chanté là du sang qui a coulé pour tous nos échecs, tous nos péchés. Un monsieur a prié tout à l'heure par rapport à ce qu'on va faire autour du trône, dans l'éternité. Et j'ai vécu avec vous ce matin un petit avant-goût de cela. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La gloire de Dieu repose sur nous. Et parfois, avec lourdeur, c'est lourd, mais c'est une bonne chose. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être certains esprits lourds parmi nous. Mais que cette lourdeur-là soit enlevée. Parce que Jésus a pris tout fardeau sur lui. Venez à Jésus. Nous pouvons être totalement en paix ce matin. C'est le don de Dieu en Christ par le pouvoir, la puissance de l'Esprit Saint. Tout péché et toute condamnation enlevée gratuitement. Et il y a une nouvelle vie à être reçue avec reconnaissance. Voilà un petit message que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Mais le texte que j'aimerais bien partager avec vous ce matin se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens, sa première lettre à l'Église. Les Thessaloniciens, chapitre 5e. Et le verset 18, tout simplement. Le verset 18. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Voilà le texte pour aujourd'hui. Réfléchissez un moment, si vous voulez bien, à la dernière fois que quelqu'un vous a demandé de faire quelque chose de peu réaliste, impossible, ridicule même. Pour certains, peut-être, ne fût-ce que de vous demander de toucher vos orteils. Déjà, c'est ridicule. Pour d'autres, c'est arrêter de vous plaindre. Mais je ne fais que ça. Alors, pas du tout réaliste. Pour quelqu'un qui a été mis à la porte par le GSK, récemment, rendre grâce en toutes circonstances, dans ces circonstances-là, rendre grâce au Seigneur, impossible. Quoique, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, l'apôtre Paul exhorte les saints en toutes circonstances, rendez grâce. C'est la volonté de Dieu pour nous. On peut penser au gamin indien dont le papa, qui était pasteur, le papa se fait tuer par des extrémistes hindous. Et puis il lit ce verset, « Rendez grâce en toutes circonstances. » Vraiment ? Ou la femme qui a épousé un homme violent. Remerciez le Seigneur dans cette atmosphère-là. Ou l'homme qui est allé à Londres, en centre-ville, fin janvier, dans sa camionnette, pour voir son comptable. Mais il a oublié de payer 2 taxes environnementales sur son véhicule diesel, qui a roulé en zone contrôlée. Ce qui lui fera 2 amendes. Mince. Et le moment où je m'en suis rendu compte de ma bêtise, oui, c'était bien moi. C'est le moment où j'arrive à mon bureau pour préparer cette prédication. Alors Daniel, bienvenue dans le projet du Seigneur pour t'apprendre le texte sur lequel tu vas prêcher ce dimanche. Merci Seigneur. En fait, oui, merci Seigneur. Je te rends grâce. Tu me donnes l'occasion de mettre en pratique un aspect important de l'enseignement pour ce matin. C'est toujours mieux si le prédicateur a déjà vécu un peu ce qu'il enseigne, non ? Je peux dire merci Seigneur parce que j'ai cette camionnette. J'ai aussi le problème de devoir aller voir mon comptable, ce qui veut dire qu'il y a bien quelque chose à compter. Et si j'ai une amende à payer, je suis en mesure de le faire. Gloire à Dieu. Mais la leçon doit aller plus en profondeur dans nos vies. C'est-à-dire que si tu as un boulot et un peu d'argent en banque, l'amende est bien embêtante, mais tu peux, même de par tes propres forces, remercier le Seigneur parce que tu as les moyens, vous avez les moyens pour payer l'amende. Et on sait que c'est comme ça que les chrétiens sont censés réagir. Ça, on pourrait peut-être faire de nos propres forces. Mais quand une femme battue rend grâce au Seigneur, quand le gamin indien rend grâce au Seigneur pour son papa qui se retrouve sain et sauf près de Jésus, alors là, sans aucun doute, il s'agit d'une œuvre puissante de l'Esprit-Saint, n'est-ce pas? Et l'Esprit-Saint nous dit, dans le chapitre 4 et verset 13 de cet épître, que nous, chrétiens, nous n'attristons pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Amen. Jésus-Christ a été battu. Il a aussi été tué. Mais il est ressuscité. Alléluia. Pour nous et pour la gloire de son Père. Bien-aimés, rendez grâce pour le fait que vous ne devez plus vous attrister comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Dis-le maintenant dans votre cœur ou à haute voix. Je te rends grâce, Seigneur, pour la puissance de ta résurrection, qui fait que je ne m'attriste plus comme ceux qui n'ont pas d'espérance. En fait, j'ose dire que plus la souffrance est pénible, plus le fait de rendre grâce au Seigneur fait preuve de l'œuvre de l'Esprit dans votre vie. N'allez pas chercher la souffrance, ce serait complètement charnel. Cherchez le royaume. Cherchez le royaume en vous rappelant en toutes circonstances l'immortalité que vous avez reçue gratuitement en Jésus. Rendez grâce en toutes circonstances. Je redis alors que plus la souffrance est pénible, plus le fait de rendre grâce au Seigneur fait preuve de l'œuvre de l'Esprit-Saint dans votre vie. À réfléchir. Le verset suivant dit qu'il ne faut pas mépriser les prophéties. Eh bien, voici une déclaration pour cette année. Plus de souffrance que prévu, mais beaucoup plus de joie et d'émerveillement devant Dieu qu'attendu. Et quand vous commencerez à vouloir de façon intentionnelle et remplie de prières rendre grâce en toutes circonstances, vous allez passer par des circonstances éprouvantes. Vos relations au foyer, à l'église, au travail seront mises à l'épreuve. Mais, par la puissance du Saint-Esprit, vous allez vaincre le mal. Le péché est tapis à votre porte. Ou si vous voulez, le péché est caché en embuscade devant votre porte. À moi, à vous,
de vaincre sur lui par la puissance de l'Esprit-Saint. Et une bonne manière pour vaincre, de vaincre sur le péché dans votre vie, c'est en toutes circonstances le fait de rendre grâce au Seigneur. Je vois la tentation devant moi, Seigneur. Je vois le péché que j'ai commis aujourd'hui, Seigneur. Mais je te rends grâce pour ton sang qui a coulé sur la croix il y a 2000 ans, pour le fait que là, maintenant, dans la présence de mon Dieu, mon Père céleste, je suis la justice même de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Jésus est devenu péché pour moi, le péché qui me tente, le péché que je commis. Jésus est devenu ce péché, afin qu'en lui, moi, je devienne quoi ? Justice de Dieu. Et là, je peux crier comme la dame pentecôtiste, hein ? Dans cette situation pénible. Et si vous n'avez pas expérimenté cela, il faut expérimenter cela.
Le péché est tapis à ma porte. À moi de vaincre sur lui par la puissance du Saint-Esprit. Dis donc, toi, péché, t'es déjà mort, cloué à la croix. Alors tu ne vas pas vaincre sur moi. Tu veux m'écraser. Mais moi, je t'écrase plutôt. Je pense qu'il faut quelque part.
Vous savez qui était caché en embuscade devant la porte de David ? Les membres de l'armée de Saül qui voulaient le tuer. Alors David, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, demain matin, c'est le psaume 59, demain matin, je vais chanter cet amour infaillible pour lequel on a remercié le Seigneur tout à l'heure. Cet amour infaillible. Je vais chanter. Dans le psaume 57, il dit, je vais éveiller l'aube. Je vais éveiller l'aube ? Qui peut faire ça ? Un croyant qui ne se laisse pas vaincre par le péché, parce qu'il sait que son péché a déjà été cloué à la croix en Jésus-Christ. Voilà qui peut vaincre le mal, le péché. Parce que le Seigneur l'a déjà fait et nous sommes unis avec le Seigneur. Voici une belle chose dans le Seigneur ressuscité. Les souffrances qui risqueraient d'exterminer votre joie en Jésus sont en fait les clés pour votre découverte de cette joie en Jésus qui déborde. Les souffrances qui risqueraient d'exterminer votre joie. Et je sais qu'il y en a dans cette salle. Il y a des souffrances qui risqueraient d'exterminer votre joie dans le Seigneur. Mais ce sont ces souffrances-là qui sont les clés pour vous, pour que vous découvriez cette joie en Jésus qui déborde comme un fleuve d'eau vivante. De l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il y a l'exhortation dans le verset suivant aussi, n'éteignez pas l'Esprit.
Mauvaise idée. Le diable veut écraser votre foi jusque dans la poussière, vous le savez. Et cela parfois de manière pas très subtile. Pour ce qui concerne les Thessaloniciens, vous pouvez lire en Actes chapitre 17. Il ne faut pas y tourner, mais vous pouvez le lire après. Mais vous pouvez si vous voulez. Actes 17, on voit ce qui leur est arrivé une fois que le message du Christ a été annoncé. Le message est annoncé. Jésus, ses souffrances et sa résurrection d'entre les morts, d'après les Écritures, détail très important, d'après les Écritures. Paul le démontre dans les synagogues. Il y a la foi, beaucoup de gens croyaient, quelques juifs et une grande multitude de grecs. Et plusieurs femmes parmi les plus notables. Voilà, première réponse à l'annonce de l'Évangile, une flopée de croyants, magnifique. Ben, je parie que les apôtres ont bien rendu grâce au Seigneur pour cela. Et les nouveaux-nés en Jésus aussi. Mais après cela, il arrive la jalousie des Juifs. Ne venez pas dans nos synagogues annonçant votre Christ, comme si vous aviez vraiment trouvé le Messie. Et ils cherchent Paul et Silas pour les amener devant les magistrats. Mais ils ne les trouvent pas. Alors ils prennent Jason, qui les hébergeait, et quelques autres. C'était bien plus risqué d'héberger un apôtre ces jours-là que d'héberger une famille de 9 personnes. Ils sont accusés d'annoncer et de suivre un roi autre que César. Aïe, aïe, aïe. Voilà la deuxième réaction à l'annonce de l'Évangile. Et troisièmement, il y a la foule que les Juifs et leurs camarades ont rassemblée pour créer une sorte d'émeute dans la ville. Eh bien là, ils pouvaient, en fait, rendre grâce. Pourquoi ? Parce qu'ils ont clairement enragé Satan. En toutes circonstances, rendez grâce. Si Satan est enragé, c'est que vous faites bien. Au nom de Jésus. C'est cela qu'il déteste. C'est pour cela que le péché est tapis devant votre porte. Ah, je vois la manière de Satan. Il est menacé par ma foi en Jésus. Ha! Eh bien, merci Seigneur. Grâce à cette opposition satanique, les apôtres ont dû quitter la ville, ce qui implique quitter une bande de croyants nouveau-nés depuis 3 sabbats seulement. Et si les apôtres ne partent pas, la caution que les croyants ont dû payer aux magistrats n'est pas rendue. L'Évangile ne vous est pas nécessairement financièrement intéressant. Et on se retrouve vulnérable, quelques brebis encerclées par des loups affamés. Et la réaction des magistrats était la quatrième réponse à l'annonce de l'Évangile de Dieu chez les Thessaloniciens. Je me demande, est-ce qu'il rendait grâce à ce moment-là, au moment où les apôtres ont dû quitter cet endroit, dans ce moment de vulnérabilité, est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Il y a un test qu'on peut faire, parce qu'on sait bien, hein, si on ne rend pas grâce, notre vitalité spirituelle est étouffée. Vous avez remarqué cela peut-être dans votre vie. Qu'en est-il de la vitalité spirituelle chez les Thessaloniciens ? L'Évangile a été annoncé. l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts a été reçu. Les souffrances sont survenues. Et la suite de l'histoire, ben, nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Lisons du verset 5 jusqu'au verset 8. Notre évangile, dit l'apôtre Paul, n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. Alléluia. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Car, pourquoi est-ce qu'ils sont un modèle? Car, verset 8, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. Vous savez que l'Esprit Saint ne dépend pas du Twitter pour faire retentir la nouvelle de votre foi de par la nation et même de par le monde. Ils ont reçu la parole de vie en Jésus-Christ, le ressuscité, dans un contexte de souffrance, de tribulation, avec joie, avec une joie surnaturelle, bien sûr. Parce que autrement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être rempli de joie dans des circonstances pareilles, sans qu'il s'agisse d'une œuvre de l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Alors là, Paul sait qu'il a affaire à de vrais chrétiens, nés de nouveau et remplis d'une joie surnaturelle. Qu'en est-il de la vitalité spirituelle de l'Église baptiste de Glun? Cette joie, puisqu'elle provient du ciel, secoue les normes religieuses. Gloire à Dieu. Dieu est bien plus grand que les normes religieuses. Et Dieu prend plaisir dans son amour à les exploser devant nos yeux. Mais souvent, ça nous fait pleurer. Cette joie, puisqu'elle est surnaturelle, céleste et puissante, menace le malin. Et il va tenter de jeter tous ses bâtons dans nos roues. Parfois, te semblera-t-il que ta roue va tomber de ta charrette. À ce moment-là, rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut afficher l'image, le schéma? Voilà, c'est quelque chose que j'ai dessiné cette semaine en préparant cette prédication. Notre Seigneur est né dans une étable par la puissance de l'Esprit Saint. Lors de son baptême, qui est descendu du ciel pour rester sur lui en forme de colombe? Voilà. Et c'est dans cette puissance-là qu'il a accompli tout ce qu'il a accompli durant son ministère. Donc les flèches rouges, là, ça représente l'Esprit Saint. Comment est-ce que Jésus-Christ a pu prier pendant qu'il est cloué à la croix? Père, pardonne leurs péchés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment ça? Mais c'est cette même puissance. Et il a fait ça en vue de la joie qui était devant lui. Quelle perspective! Oui, qu'il a obtenu par l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors, comment est-ce qu'il est ressuscité d'entre les morts? Par la puissance de... Vous êtes forts, ce matin. Il est resté quelques jours avec son corps régénéré. Puis il est monté au ciel. Pourquoi? Qui? L'Esprit Saint! Pour que nous aussi, nous puissions vivre en Dieu dans la même puissance qui a alimenté ce ministère-là. Vous vous rendez compte? Alors, il y a une instruction que l'apôtre Pierre a donnée le jour de la Pentecôte. Et les gens, les Juifs et autres qui ont eu leur cœur percé, « Aïe, c'est nous qui avons crucifié le Messie !» Qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous. Faites-vous baptiser. Et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Cette promesse venue du ciel. Et les flèches en vague, là, c'est nos prières, mais c'est aussi c'est notre vie spirituelle. En Dieu, les eaux du baptême qui continuent, la descente de l'Esprit dans notre cœur, parce que Romains 5, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déversé son amour du ciel dans votre cœur par l'Esprit Saint. Alors nous sachons que ces problèmes par lesquels nous passons, ça produit en nous la persévérance, le caractère et la joie en Jésus. Jusqu'à l'heure de son retour. Voilà, c'est fini avec l'image. Merci. C'est la bonne nouvelle. Mais vous avez remarqué, chaque étape est caractérisée, en fait, par des souffrances. Quand Jésus est parti pour aller au ciel, les apôtres étaient « Oh non, il ne faut pas partir !»« Mais si, parce que je vais vous envoyer l'Esprit Saint. » Et il arrive, « Waouh !» Parler en langue, flèche de feu. Souffrance. Persécution. Oui, bien sûr. Et avant le retour de Jésus-Christ, il y a la tribulation, non? Alors il nous faut bien cette puissance qui vient du ciel. En la troisième personne de la Trinité. J'ai parlé tout à l'heure de normes religieuses. Quelles sont mes normes religieuses? C'est une bonne question à se poser. Je pense qu'une bonne manière pour moi d'enseigner les normes religieuses, c'est témoigner moi-même de mes propres normes religieuses. Voilà. Comme ça ne vous fait pas de mal, mais ça expose le cœur du prédicateur. Et il s'agit d'un ami plus jeune que moi dans la foi. C'était en 2005. Je travaillais à Londres. C'était un travail séculier que j'appréciais beaucoup. C'est l'année où notre fille aînée est née. Donc, c'est une année spéciale, précieuse. Et c'est l'année où Hélène et moi, nous prions pour que le Seigneur nous guide par rapport à notre désir de venir servir le Seigneur en Belgique. Et j'ai rencontré mon frère, John. On est allé manger ensemble. Et c'était la dernière fois, vraisemblablement, que j'allais le voir avant notre départ en Belgique. Et effectivement, c'était la dernière fois que je l'ai vu. En fait, je ne l'ai pas vu depuis lors, depuis ce jour-là. On était dans un parking devant le bureau où je travaillais. Et John a voulu prier pour moi. Chouette. Il a voulu aussi mettre sa main sur mon épaule. Et dans ma tête, c'est l'ancien qui met la main sur l'épaule du bébé dans la foi. Pour l'aider, pour affirmer, pour encourager. Je me dis, c'est bizarre. C'est le plus jeune dans la foi qui met la main sur l'épaule du plus âgé dans la foi, du plus mature, je pensais. Et moi, je suis marié depuis plus longtemps que John. Et moi, j'ai un enfant. Et lui n'a pas d'enfant. Et moi, je vais partir en mission. Lui, pas. Et moi, j'ai pas de problème dans mon mariage pour le moment. J'en avais, en fait, mais je les avais pas encore vus. J'ai pas de problème dans mon mariage. Lui, si. Alors, d'où cette audace de sa part de mettre sa main sur mon épaule et prier pour moi? Quelle présomption! Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai repris. J'ai dit, vous savez, la prochaine fois, il faudrait peut-être demander à un frère s'il veut bien que tu mettes ta main sur son épaule, prier pour lui. Daniel, non, Daniel, qu'est-ce que tu fais? Quelle fierté dans mes normes religieuses. Alors, comment diagnostiquer ces normes religieuses? Il se peut très bien que vos normes religieuses sont les choses spirituelles que vous faites, dont vous êtes le plus fier, le plus fier. C'est un outil pour diagnostiquer ces normes religieuses. Peut-être que c'est la salle de culte. Je sais pas. Bon, je vous laisse réfléchir à ça vous-même. Mais ce sont le genre de bâton que le malin veut nous mettre dans les roues. Et ce bâton-là était dans ma roue. Et quelques années plus tard, la roue commence à bouger. Et puis, j'ai l'impression que la roue est tombée. Et un jour, un frère américain est venu m'encourager à Bruxelles. On est allé boire un café ensemble. Il m'a dit, j'ai un verset biblique pour toi, Daniel. Ça se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, et c'est le verset 18. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle et à votre égard la volonté de Dieu en Christ.